VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, la justice sud-africaine a ordonné la publication aujourd'hui même d'un rapport potentiellement explosif pour le président Jacob Zuma sur la corruption à la tête de l'État. Le bureau de la médiatrice de la République, auteur du document, reçoit l'ordre de publier le rapport d'ici 17h heure locale, 15h temps universel, aujourd'hui 2 novembre, y compris en le mettant sur son site internet, a déclaré le juge Dunstan Mlambo au tribunal de Pretoria. Quelques heures plus tôt, dans une volte-face, le président Zuma avait renoncé à bloquer via la justice la sortie de ce document. Le rapport rédigé par la précédente médiatrice de la République, Toulima Doncella, juste avant qu'elle ne quitte son poste, concerne principalement les soupçons d'influence de la sulfureuse famille des riches hommes d'affaires Gupta sur le président Jacob Zuma, au point de lui imposer la nomination de certains ministres pour favoriser leurs intérêts. En RDC, le rassemblement, la coalition d'opposition réunie autour d'Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, compte organiser un meeting populaire samedi à Kinshasa pour mettre la pression sur le président Joseph Kabila. Entre-temps, à l'initiative du chef de l'État, la Conférence nationale épiscopale du Congo, la CENCO, tente de rapprocher les deux camps. Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, se prononce sur cette initiative.
Nous avons toujours dit que le problème dans ce pays, c'est M. Kabila. Il n'y a que lui seul qui peut aider à ce que la crise soit décantée. Et s'il prend l'initiative de reconnaître sa lourde responsabilité qu'il a vis-à-vis du Congo, vis-à-vis de l'histoire, et au jour d'aujourd'hui, la CENCO est chargée de mener des contacts, nous espérons que ça va marcher. Nous allons faire comme les Américains. Nous négocions à gauche et à droite, nous continuons à nous battre. S'il n'y a pas un vrai dialogue pour apaiser la tension, je crois que la deuxième option est toujours là. Nous allons nous battre pour faire respecter notre constitution. Notre politique se tiendra bel et bien à la date et à l'heure indiquée. Qu'il n'en ait plus à ceux qui pensent qu'ils ont le droit de violer la constitution, violer l'article 26 de notre constitution, mais nous nous disons que nous serons là et nous tiendrons notre meeting.
Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS et membre du Rassemblement. Rapport accablant sur les casques bleus au Soudan du Sud, la force onusienne est accusée d'inefficacité. En conséquence, le commandant de la force a été limogé, Eric Manirakiza.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est déclaré profondément affligé par les conclusions et inquiet des graves lacunes identifiées. Selon le rapport, les casques bleus ont réagi de manière chaotique et inefficace aux violences de juillet à Djouba et n'ont pas su protéger les civils d'agressions sexuelles. Le commandant de la force a été immédiatement limogé. Le rapport souligne aussi l'échec à répondre à l'incursion le 11 juillet de soldats sud-soudanais dans un hôtel abritant des employés d'organisations internationales et proches d'une base des Nations Unies. Des combats meurtriers avaient opposé du 8 au 11 juillet les troupes du président Salva Kiir à celles de l'ex-chef rebelle Riek Machar, alors vice-président du pays. L'enquête dirigée par le général néerlandais à la retraite, Patrick Kamaert, met en cause des lacunes de commandement, le manque de préparation des casques bleus face à l'imminence prévisible d'une reprise des affrontements entre forces gouvernementales et rebelles sud-soudanais et une aversion au risque, les rendant réticents à user de la force pour protéger les civils.
Afrique de l'Ouest maintenant, Mali, le groupe djihadiste en Sardine a catégoriquement nié mardi avoir consenti à une trêve dans le pays et exprimé son étonnement et sa grande surprise à l'annonce de cette nouvelle. C'était en réaction à la déclaration lundi de l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali. Monsieur Diko y disait avoir reçu fin septembre une lettre dans laquelle le chef d'Ansardine, Iyad Agali, aurait annoncé un cessez-le-feu unilatéral dans tout le Mali. Dans un communiqué reproduit par l'agence mauritanienne Al-Akhbar et SAIT, Centre américain de surveillance des sites djihadistes, le chef d'Ansardine dément fermement cette information.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, le oui l'a emporté avec plus de 93% de oui de voix et un taux de participation de plus de 40% dans le référendum constitutionnel de dimanche. Pour être président, le nouveau texte stipule qu'il faut être ou de père ivoirien ou de mère ivoirienne. Pour autant, est-ce que cette nouvelle constitution règle la question de l'ivoirité qui avait plongé le pays dans une guerre civile meurtrière ? Idriss Fall a recueilli la réaction de Kwadio Konan-Bertin, alias Kakabé, vice-président du groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale ivoirienne.
On aurait pu le penser si les Ivoiriens avaient été associés à la nouvelle constitution et s'ils y avaient adhéré. Tel n'est pas le cas. Depuis l'origine de cette nouvelle constitution, dans sa rédaction, qui avait été confiée donc à un comité d'experts qui lui-même manquait de légitimité populaire, comité d'experts de par la volonté unique du chef de l'État, il vient de doter notre pays d'une nouvelle constitution. Le peuple ivoirien n'a pas été associé. On a simplement poussé la forfaiture jusqu'à faire jouer aux députés à l'Assemblée nationale un rôle qui n'est pas le leur, un coup de force constitutionnel. Aujourd'hui, les Ivoiriens, dit-on, ont été aux urnes. Nous savons très bien que sur le terrain, ils ont boudé les élections. Quand ce n'est pas le boycott par endroit, le taux de participation s'élève maximum entre 9 et 11%. Ce que vous voyez là, ce n'est rien d'autre que de la supercherie. Ça ne reflète pas la volonté des Ivoiriens. On vient donc certainement de leur imposer une nouvelle constitution. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? D'après les Anglais, wait and see.
La première chose, c'est le poste de vice-président. Ça va déclencher peut-être quelques querelles de succession, non?
Ce n'est même pas forcément de ça, les querelles de succession, qui intéressent les Ivoiriens. Nous sommes un État républicain, que le principe de la République, c'est le pouvoir du peuple. Les Ivoiriens vont se retrouver devant une situation où on va leur nommer un successeur qui, visiblement ou probablement, va être président de la Côte d'Ivoire sans avoir été élu par les Ivoiriens. Voilà le cas de figure qui consacre un recul net de la démocratie de notre pays.
Et qu'en est-il de la création d'un Sénat?
Tout ça est budgétivore. Même en France, pays développé où ils ont beaucoup d'argent, ce sont là des institutions de luxe. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens aujourd'hui de se le permettre quand on sait la pauvreté dans laquelle croupissent l'ensemble des Ivoiriens. Ce sont des institutions qui n'ont pas vraiment aujourd'hui leur raison d'être.
Est-ce que vous pensez que cette constitution va clore tous les problèmes de la Côte d'Ivoire?
Ce que je constate, c'est que la première constitution, celle que nous avons encore en vigueur, elle a été votée en 2000 par l'ensemble des Ivoiriens, dit-on, à 86%. Pourtant, 2 ans après, ça n'a pas empêché qu'elle nous conduise, n'est-ce pas, au désastre. Cette fois-ci, voici une constitution qu'on peut pose aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, visiblement, ne l'ont pas accepté. Ils sont dans la rue pour s'y opposer. Ils n'ont pas été aux élections. Même si on a revu les chiffres à la hausse, comme il fallait s'y attendre, cela pose évidemment le problème de la crédibilité de nos institutions, surtout la crédibilité de la CEI.
Pourtant, on a l'impression que le patron du PDCI a donné sa baraka, notamment l'ancien président ivoirien, non?
Oui, mais l'ancien président ivoirien, il y a 10 ans en arrière, c'est lui qui avait dit tout à fait le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. Comme quoi, la politique en saut de notre pic.
Kwadio Konan-Bertin, alias Kakabé, vice-président du groupe parlementaire du PDCI à l'Assemblée nationale ivoirienne. Présidentielle 2016 aux États-Unis, dernière ligne droite dans le bras de fer entre la démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump. À une semaine de l'élection du 8 novembre, l'équipe de campagne de Mme Clinton s'efforce de limiter les dégâts dus à la reprise par James Comey, directeur de la police fédérale, de l'enquête sur l'affaire des emails de la candidate démocrate Jacques Aristide.
Les détracteurs républicains d'Hillary Clinton se sont sentis revigorés par la relance des investigations annoncées par le directeur du FBI, James Comey, vendredi dernier, ce qui a créé une tempête politique. Alors qu'elle affichait un optimisme serein la semaine dernière, savourant des sondages prédisant un raz-de-marée le 8 novembre, Hillary Clinton a dégainé les arguments qui ont fait mouche il y a quelques mois contre la personnalité du milliardaire, qui n'aurait, selon elle, pas l'envergure pour le bureau ovale.
Donald Trump has proven himself to be temperamentally unfit and totally unqualified to be president and commander-in-chief.
Selon un sondage ABC Washington Post, Donald Trump recueille 46% des intentions de vote contre 45% pour Hillary Clinton, une quasi-égalité statistique. D'autres gardent l'avantage à la démocrate. D'ailleurs, la tendance est au resserrement.
The guiding rule of the political class in Washington DC is that they are looking out only for themselves
La règle de conduite pour la classe politique à Washington consiste à se protéger elle-même, a déclaré Donald Trump lors d'un discours près de Philadelphie en compagnie de son colistier Mike Pence. Un discours consacré à la coûteuse réforme du système de santé de Barack Obama, votée en 2010, mais que le républicain a promis d'abroger et de remplacer dès son entrée en fonction. Quoi qu'il arrive, les Américains se réveilleront le 9 novembre.